dès 9h sur Radio 1, tous les jours.
Béni soit-il.
Yorana Yoto Patoa, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Radio 1, la première FM de Tahiti. C'est le début de la semaine, nous sommes lundi et c'est l'émission Béni soit-il, comme chaque lundi, qui vous propose une rétrospective du week-end par rapport à l'actualité. Et on est d'accord pour dire qu'en ce moment, l'actualité, ce sont tous ces lycées et collèges qui ferment les uns après les autres pour un, deux cas de Covid, que ce soit au niveau des professeurs, au niveau des élèves. La plupart des grands lycées sont déjà concernés. On rappelle également que toute l'éducation, tous les collèges et lycées protestants ont décidé leur fermeture jusqu'au 24 août. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que c'est une bonne idée de fermer les écoles et de ramener tous les enfants à la maison? En tout cas, il y a une personne qui en parle depuis le mois de juin déjà et qui est très en colère aujourd'hui et on peut lui donner raison. Il est avec nous au téléphone en direct en ce moment. Bonjour Tepuenui Snow.
Bonjour Béni, bonjour à tous les auditeurs de Radio One.
Donc je rappelle que tu es président de l'Association des parents d'élèves.
Oui, de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.
Oui, pardon, oui.
Qui comprend l'ensemble des associations de parents d'élèves de toutes les écoles et établissements publics de Polynésie.
Alors, quelle est ta réaction par rapport à la situation, là, à ce qui se passe en ce moment dans l'actualité?
C'est dommage que les autorités de l'éducation n'aient pas entendu la voix des parents d'élèves lorsqu'en juillet, lors du dernier au comité de l'éducation, j'ai interpellé la ministre sur un certain nombre de questions par rapport à l'organisation de cette rentrée scolaire. Plusieurs questions étaient dans notre tête par rapport notamment et principalement à la continuité pédagogique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'organisation qui a dû être mise en place dans le cadre du suivi scolaire des enfants, rappelez-vous, pendant la première vague. Et il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été faites. Parce que les écoles étaient fermées, parce que les parents étaient à la maison, la posture des enseignants a complètement évolué, la posture des parents également. On s'est retrouvé avec des parents qui ont finalement été enseignants à la maison. Certains se sont plaints, d'autres moins. D'autres ont pris les choses avec beaucoup plus de facilité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui risque d'être la même. Donc nous avions demandé en juillet à la ministre d'anticiper et de nous dire, voilà, à partir du moment où on va se retrouver selon trois cas de figure, il n'y a pas de virus, donc on continue l'école comme d'habitude. Il y a des suspicions de virus dans une école, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur une fermeture partielle, une fermeture totale de l'établissement, et puis après il y a une contamination générale qui se répand, et quelles sont les mesures à ce moment-là qui sont prises? Surtout, de quelle manière on organise cette continuité pédagogique? Parce qu'il y a de bonnes choses qui se sont passées. Est-ce que l'on va du coup organiser les groupes d'élèves par classe? Est-ce que l'on va refaire les livres scolaires? Est-ce que l'on va organiser la continuité pédagogique par la télé, comme on a pu l'avoir? Il y a eu des collaborations entre la presse et les parents d'élèves. Une organisation pédagogique qui va se faire uniquement en distanciel, puisqu'aujourd'hui, le présentiel fait que l'on ne peut plus accueillir autant d'enfants dans une classe. De quelle manière on envisage la coéducation et puis cette continuité pédagogique en partenariat avec les parents? Donc ce sont des questions que nous avions posées, que j'ai encore posées il y a deux semaines lorsque j'ai rencontré la ministre. Alors, on n'a pas de réponse et on le regrette très fortement. Aujourd'hui, on a 5 écoles publiques qui sont fermées. On a toutes les écoles protestantes qui sont fermées. Il y a quelques écoles catholiques qui vont fermer. Certains enfants de ces écoles vont dans les mêmes garderies. Donc, on peut imaginer que s'il y a des enfants qui ont été contaminés, ils ont certainement contaminé des enfants qui vont dans d'autres écoles. Alors après, comment est-ce qu'on fait? On a une école qui ferme cette semaine, puis qui réouvre la semaine d'après, puis qui referme la semaine suivante.
Alors justement, Tepuenui, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on ait autorisé la rentrée des classes? Le premier jour de la rentrée, aucun élève n'avait de masque. Il y a des élèves qui allaient à l'école avec le masque. Hein, j'ai des gens de ma famille qui nous appelaient en disant « Papa, moi j'ai un masque, j'ai honte parce que les autres n'ont pas de masque. » Et donc on a laissé faire une rentrée des classes sans masque pour le lendemain obliger tout le monde à porter un masque. Et aujourd'hui, tous ces enfants qui ont pu effectivement ramener le virus avec le récupérer, on leur demande de retourner à la maison dans un endroit où ils vont peut-être contaminer grands-parents, tati, tata, tonton. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Il y a clairement un problème de responsabilisation, et là je m'adresse aux parents, des parents qui doivent se discipliner leurs enfants. Alors on comprend que c'est difficile de demander à un enfant de 3 ans ou de 5 ans qui va en école maternelle de porter le masque, mais on doit arriver à porter le masque le maximum de temps, et c'est une responsabilité des parents. De la même manière, c'est l'application des gestes barrières. Il faut à tout prix casser la chaîne de transmission. Et l'un des facteurs qui permet de casser cette chaîne de transmission est effectivement l'application concrète des gestes barrières. Si effectivement le gouvernement pourra prendre toutes les mesures qu'il veut, mais si de la part des parents d'élèves, de la part de la population, nous ne prenons pas en compte qu'il faut aujourd'hui vivre différemment, qu'il faut aujourd'hui faire l'école différemment, on ne trouvera pas de solution.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer une école où on vit quand même avec le virus, mais en respectant les gestes barrières avec des masques, ou il faut absolument que tout le monde retourne à la maison?
Il n'y a pas de solution. Plus honnêtement, je pense qu'il faut que nous vivions avec... On va vivre avec le virus, on ne peut pas faire autrement, à mon avis. Le virus, il est partout. Il n'est plus simplement à l'école, mais il est également dans autour de nous. Avec le retour à la réouverture des avions, nous avons fait venir des personnes de l'extérieur avec le virus qui ont contaminé d'autres personnes. Tout ça parce qu'ils n'ont pas été disciplinés, ils n'ont pas écouté les règles, et on se trouve aujourd'hui dans le beau drap. Maintenant, il faut à tout prix organiser l'école à la maison pour permettre qu'il n'y ait pas que le droit à l'éducation soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dérangeant, c'est qu'on organise une rentrée qui finalement va être complètement saccadée, et qui va payer les pots cassés à la fin? Ce sont les enfants. Et là, je ne suis pas d'accord. J'entends que la ministre de l'Éducation est très soucieuse de cela également. Mais il faut réunir l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, les centrales syndicales des enseignants en particulier, qui eux vont devoir mettre en place cette pédagogie distancielle, qui eux vont devoir encadrer cette continuité pédagogique avec les parents, parce que ça devrait se faire avec les parents. J'en appelle à la ministre encore une fois, réunissez-nous autour d'une table pour que nous puissions dresser une déclinaison de plans selon les cas de figure qui pourraient éventuellement se faire. Il ne faut pas continuer de travailler tout seul dans son coin, on n'y arrivera pas.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au téléphone, Thépouanoui. Je te souhaite une belle journée, et on fera bien sûr le suivi de tout ce qui va se passer très prochainement. À très bientôt.
Je te remercie, Béni. Bonne journée à tous les auditeurs.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, vous venez de l'entendre, Thépouanoui Snow, président de la Fédération des représentants des parents d'élèves de Polynésie française. Comment vous réagissez-vous à la fermeture de toutes ces écoles les unes après les autres, à la fermeture de toutes les écoles protestantes? Est-ce que vous pensez effectivement qu'on doit passer par une procédure pédagogique, un suivi pédagogique comme cela avait été fait à la fin de la première année scolaire? Est-ce que les enfants doivent retourner à l'école avec un masque? On rappelle quand même que le virus se transmet par les gouttelettes, et que quoi que l'on dise, le masque reste encore la meilleure barrière pour éviter justement de partager ce virus. Après, vous êtes pour ou contre le masque, vous pensez que c'est pas bon pour votre santé, ça c'est votre vision des choses, mais n'oubliez pas qu'on est en société, et l'idée c'est de ne pas partager le virus. Le virus ne circule pas tout seul, nous sommes les vecteurs. Et là, on a plusieurs situations qui se sont déclarées durant les derniers jours. Lorsqu'on vous a annoncé il y a une semaine ces 51 gendarmes qui ont été dépistés Covid positifs en arrivant en métropole, ça nous montrait bien qu'il y a des cas. Il y a plusieurs cas qui ne sont pas dépistés tout simplement parce qu'ils n'ont pas été testés. Alors, est-ce qu'on doit effectivement avoir aussi peur des cas lorsqu'on a un cas dans un lycée, un collège? Est-ce que pour toi, c'est une bonne excuse pour le fermer, ou est-ce que tu penses que non? Parce que, et encore une fois, je ne donne pas mon opinion là. Je donne ce que j'ai lu sur différentes pages Facebook sur la toile où certains disent c'est n'importe quoi. Moi, je veux que mes enfants ils continuent à aller à l'école. C'est pas parce qu'il y a un cas, ils peuvent vivre avec ça en portant le masque et en respectant les gestes barrières. Donc, il y a une partie de la population qui pense comme ça. Une autre partie qui dit on n'aurait jamais dû ouvrir les écoles. On avait dit qu'il fallait pas faire la rentrée des classes. D'autres disent arrêtons de nous inquiéter. On parle de 130 cas, mais on est toujours à deux personnes hospitalisées qui ne sont même pas malades, qui sont juste avec des pathologies à risque. On fait tout un truc. C'est quoi ton opinion à toi? 40 43 61 00 ou par SMS au 70 20. Allez-y, vous pouvez aujourd'hui discuter, parler. Vous savez qu'il va y avoir une réunion de crise sanitaire tous les jours, hein, à 15h. On va retrouver notre président et le commissaire. C'est pendant ces moments-là que vous allez pouvoir leur envoyer des messages. Je rappelle quand même, et ils nous l'ont montré, qu'ils suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là pour ça, pour aller lire et écouter. Écoutez ce que vous dites. Et aujourd'hui, à la radio, on peut justement communiquer avec les instances. Donc, n'hésitez surtout pas. 40 43 61 00. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de fermer des écoles pour 1, 2, 3 cas de Covid, alors que si tout le monde met un masque, est-ce que c'est plus dangereux pour ces enfants de rester à l'école ou de retourner à la maison et même voir de rapporter le virus à la maison. Hein, je pensais à un exemple. Vous avez ces petits produits là, ces petites gouttelettes que l'on met lorsqu'il y a des fourmis dans votre maison là, puis que vous voulez les exterminer. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une petite goutte, puis t'as toutes les petites fourmis qui viennent prendre la goutte, puis qui les ramènent au nid pour détruire le nid. Est-ce que dans cette idée-là, hein, dans cette idée-là, attention, on n'est pas en train de faire exactement la même chose en ayant permis la rentrée des classes avec tous ces enfants sans masque, agglutinés les uns à côté des autres pour voir dans quelle classe ils se trouvaient, puis le lendemain les forcer à mettre un masque, mais entre-temps, et ben voilà, il y a eu contagion et on leur demande maintenant de retourner tous à la maison proche de personnes âgées qui sont elles des personnes à risque. Je dis ça comme ça, hein, je dis ça, je dis rien comme on dit, d'accord? Tu veux réagir? 40 43 61 00. Nous avons Maëva qui veut réagir. Bonjour Maëva.
Bonjour.
Comment vas-tu Maëva?
Ça va.
Alors, est-ce que toi tu as des enfants?
Oui.
Et comment tu veux réagir? Qu'est-ce que tu voulais dire sur l'actu?
En fait, moi j'avais déjà appelé, je crois, le mois dernier, c'était pour demander comment il faut faire pour la rentrée. Est-ce que les enfants doivent porter des masques ou il faut qu'on fournisse les gels alcoolisés? Mais après, bon, là moi j'appelle par rapport, parce que je vois à la télé, mais j'entends aussi à la radio qu'il faut avoir les gestes barrières, la distanciation et tout. Mmh. Mais je peux te dire qu'en classe, on ne peut pas.
On ne peut pas.
Parce que là où mon fils, distanciation.
Mmh.
Parce que mon fils, lui, il est dans une classe de 35 élèves.
Ah, waouh, 35 élèves dans une salle de classe.
Oui.
Comment voulez-vous?
On peut pas, on peut rien faire. Il y a même l'infirmière du lycée, et puis avec le principal qui leur a dit, ah ben les enfants, il faut respecter les gestes barrières. Un élève lui a répondu, mais madame, comment voulez-vous qu'on fasse les gestes barrières dans une salle, dans une petite salle de 35 élèves? On ne peut pas. Il y en a qui portent le masque, il y en a qui ne le portent pas.
Mais là, le masque est rendu obligatoire maintenant. Est-ce que déjà ça te rassure le fait que tout le monde porte un masque? Parce qu'il semblerait que les élèves ont bien suivi la consigne.
D'après mon fils, non.
Non? Oh là là. Alors effectivement, hein, ça c'est un problème. Entre les choses qu'on demande de faire et les choses qui sont possibles à faire, ça devient compliqué. Là, on peut pas respecter des gestes barrières et des distanciations à 35 dans une même salle. Ça, c'est sûr que c'est impossible.
Parce que moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse attention. Mm-hmm. C'est aussi par rapport aussi à moi. Moi, je fais partie des personnes qui sont...
À risque ?
Des pathologies, oui.
Aïe, aïe, aïe.
Et je lui ai dit de faire attention, de prendre son gel et tout.
Alors...
Il me dit, non, ne t'inquiète pas, maman, je vais faire attention. Mais bon, moi j'aurais préféré, surtout, que même s'il y a là où le lycée où il est, je ouais. sais qu'il y a eu un cas, enfin, pas un cas, comment on dit,
C'est quelqu'un qui a été dépisté, un suspect.
Voilà.
Un suspect.
Voilà, un suspect, oui. Et ouais. Puis il y a une salle, il y a une classe qui a été, qui reste, qui doit rester à la maison, une classe.
Ouais.
Bon, mais moi j'ai peur que après que ça va propager, quoi. Peut-être que ça a déjà propagé, mais qu'il y en a des personnes qui ne vont pas faire le test.
Est-ce que lorsque ton fils revient de l'école, est-ce que vous respectez un protocole, genre il doit vite aller à la salle de bain, enlever son linge, mettre dans la machine à laver?
Voilà, il doit se laver les mains, tout ça, il doit retirer, oui, c'est ça.
Ah.
Par rapport à nous,
donc,
à la maison.
Toi,
moi-même, c'est pareil, hein, quand je vais au travail, je rentre à la maison, je fais la même chose avec aussi mon mari.
Est-ce que tu trouves donc que c'est normal aujourd'hui qu'on ferme les écoles dès qu'il y a un cas?
Mais non, il fallait faire ça tout au début, qu'il fallait prévoir, c'est tout ça.
Bah, il est mieux prévenir que d'être dans cette situation aujourd'hui, voilà. Parce qu'on ne sait plus combien de personnes sont porteurs, surtout qu'on sait qu'il y a toujours des gens qui sont asymptomatiques et ils ne savent même pas eux-mêmes s'ils sont porteurs ou pas du virus, quoi.
C'est ça.
D'accord. Parfait. Je te remercie, Maëva, de ton appel. Bonne journée, gros bisous magiques. Voilà, 40 43 61 00. Voilà une maman qui s'inquiète et qui dit que son fils pense que c'est impossible, et on peut le comprendre. 35 élèves dans une même classe, comment voulez-vous respecter les gestes barrières et surtout la distanciation? Comme le dit la maman, comme le dit Maëva, elle dit c'est impossible. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Radio 1, bonjour.
Oui, bonjour, je voulais dire.
C'est Olivier à l'appareil. Bonjour Olivier.
Ça va et toi?
Ça va très bien, merci.
Voilà. Oui, bon, il y a toujours des cas, mais bon, asymptomatiques, où ils ne sont pas malades. Donc je ne vois pas pourquoi on arrêterait les classes pour ça.
Alors, c'est vrai que, comme disent beaucoup de personnes, on dit qu'il faut vivre avec le virus.
Bah,
mais
voilà.
Dès qu'il y a un cas ou un suspect, bing, on ferme une école.
Oui, bah, donc dans ces conditions-là, plus personne ne va aller à l'école, plus personne ne va aller au travail. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent quoi? À faire effondrer l'économie complètement? Et que tout le monde se retrouve sans travail?
Bah après, là Olivier, tu comprends bien qu'il va y avoir le discours des gens qui disent que la santé est plus importante que l'économie, mais c'est vrai que
La santé, je suis d'accord, mais il y a tellement d'incohérences avec ce virus qu'on commence à poser beaucoup de questions quand même. D'accord, parce que on voit que les cas diminuent de jour en jour. On trouve des clusters, mais les clusters, les gens ne rentrent plus à l'hôpital. Donc, je vois pas le problème. Une grippe, c'est voilà. Les gens qui ont la grippe, c'est pareil. Voilà. Il y a un moment où faut arrêter toute cette mascarade. Je crois que je n'arrive pas à comprendre moi que les gens ne se réveillent pas plus.
Alors,
que ça devient une mascarade cette histoire. Ça devient une mascarade.
Je peux comprendre, hein, Olivier, que tu puisses réagir comme ça, parce qu'on a vraiment toutes les réactions en ce moment sur Internet et partout, parce qu'on ne sait plus vraiment, on a des soucis de savoir où est la vérité. Et il y a une nouvelle case qui est apparue à la télévision. Est-ce que tu as vu qu'elle est guérie? Les guéris. Il y avait marqué deux guéris sur le tableau. Et, alors qu'on n'a pas de, vaccin, on n'a pas de remède, quoi.
Oui, non, mais... Non, mais bon, le problème, c'est qu'il faut regarder les chiffres. Il faut que les gens se renseignent eux-mêmes et qu'ils regardent les vrais chiffres officiels. Et quand on voit les vrais chiffres officiels par rapport au mois de mars, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Bien sûr, au mois de mars, on testait... la Polynésie, elle avait 1000 vaccins en stock. Donc, on testait personne. Maintenant, on teste davantage. Bah, c'est sûr qu'on va trouver des gens qui seront positifs, mais ils sont plus malades. Ils sont plus à l'hôpital. Quand on compte par rapport à la population, ça fait 0,027%. Par rapport au nombre officiel qu'ils nous ont donné. Et ils paralysent plus ou moins les écoles, l'économie, etc. Il y a un problème quelque part. Il y a une incohérence là-dedans. Alors en plus, au mois de mars, ils nous disaient quelque chose. Et puis maintenant, ils nous disent le contraire. Enfin, voilà.
La chose qui revient souvent, Olivier, c'est les gens qui disent on a un élève sur 900 qui est suspecté ou qui est porteur, et hop, on ferme tout le lycée. Alors qu'on l'a bien vu avec une personne, effectivement, il y a eu 130 cas de Covid qui viennent se greffer autour de ce... Alors, j'aime pas dire cluster, parce que je trouve qu'il y a un mot français qui existe, qui s'appelle foyer, et qui fonctionne très, très bien. Il y a eu 130. Alors, waouh, c'est énorme. Mais personne n'est à l'hôpital, quoi.
J'ai l'impression...
Est-ce que tu penses qu'on devrait mieux expliquer aux gens la différence entre un cas et un malade? Parce que lorsqu'on parle... Si on voulait parler des cas de diabète en Polynésie française, ça serait énorme. Il y a vraiment des gens qui meurent quasiment tous les jours du diabète en Polynésie française. Et là, c'est pas pareil.
Des gens qui ont le cancer, qui ont le diabète, qui ont beaucoup d'autres maladies qui meurent et qui font pas leur chalala tous les soirs à la télévision pour dire qu'il y a je sais pas combien de morts.
Ah ben là, on va te dire, c'est pas la même chose.
Le problème, c'est d'affoler. Ils affolent la population. Ils affolent pour que la population... et peur. Et en ayant peur, automatiquement, vous avez du stress. Et quand vous avez du stress, vous diminuez votre système immunitaire. Voilà. Plus le port du masque qu'ils obligent dans les endroits clos, voilà. Donc, le système immunitaire des gens... en plus avec les champignons, les staphylocoques qui commencent à aller dans les masques, parce que les gens, ils mettent un masque toute la journée, etc. Normalement, il faut le changer tous les... Même pas. Parce que c'est même pas des mères qui retiennent le virus. Donc voilà, c'est se foutre de nous. C'est se foutre de nous. C'est-à-dire qu'au mois de mars, on nous dit de pas mettre les masques, parce que ça ne sert à rien. Et maintenant qu'il y a presque plus de cas, il y a des cas positifs, mais les gens ne rentrent plus à l'hôpital, on nous dit le masque, ça évite ceci, ça évite cela. Or, ça n'empêche pas le virus de passer. Il faudrait avoir des FFP2 chacun et changer tous les 4 heures. Donc il faut arrêter l'incohérence. Il faut qu'elles soient un petit peu plus cohérents dans leur tête à ces gens-là. D'accord. Il y a un moment où leur incohérence fait que les gens vont... Heureusement, les gens vont se réveiller davantage. Ils commencent à nous mentir, etc.
Olivier, moi j'étais le premier, attention, parce qu'à l'époque, en février, lorsqu'il disait que c'était pas la peine de mettre un masque, j'expliquais que justement, il fallait être juste logique et que le fait que le virus se déplaçait par les gouttelettes, à partir du moment où on peut au moins retenir les gouttelettes, déjà on peut protéger celui qui est en face de nous. On est d'accord avec ça, Olivier, ou pas?
Oui, quand la personne est malade, qu'elle porte un masque, là je suis d'accord. Mais les gens qui sont pas malades, je vois pas l'utilité. Je ne vois pas lutter. Au moment qu'il y a la distanciation sanitaire, moi je dis sanitaire, parce que social, je voudrais bien savoir pourquoi ils disent social. Normalement, c'est une distanciation sanitaire. Alors pourquoi eux, ils disent social? Je voudrais bien savoir pourquoi ils disent ce mot-là.
C'est vrai
parce que ça a un autre sens, social.
Social, c'est séparer les gens, éloigner les gens les uns des autres.
Voilà. Sanitaire, c'est parce qu'il y a le virus et on se sépare d'un mètre ou un mètre cinquante pour éviter la contamination.
C'est éloigner le malade des gens.
Ils utilisent des mots qui sont pas trop cohérents. Hein, moi, j'aurais dit plutôt distanciation sanitaire. Eux, ils disent social, donc c'est séparer les gens. Pourquoi ils veulent séparer les gens?
Merci de ton intervention, Olivier. Passez une très belle journée.
Merci à toi.
Merci, bye bye.
Bye bye.
Voilà, 40 43 61 00. On a vraiment des réactions de droite, de gauche. Et toi, tu en penses quoi de ça? Encore une fois, hein, on est obligé de le rappeler, le masque reste quand même utile pour justement éviter les poustillants, éviter d'envoyer le virus à la personne qui est en face de vous. Après, il y a comment on le porte, comment on l'utilise. J'ai rencontré une personne dans un hypermarché. Radio, bonjour.
Yorana,
excuse-moi, je finis juste ça. Elle portait un masque et lorsqu'elle parlait au vendeur, elle baissait son masque pour lui demander quelque chose. Alors, à quoi ça sert de mettre un masque si vous le baissez lorsque vous parlez avec quelqu'un? On est là pour protéger l'autre, au moins. D'accord? Oui, Yorana, comment vas-tu?
Ça va, ça va.
Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Raconte.
C'est pour la personne qui vient d'intervenir.
Vas-y, je t'en prie.
Alors, chacun a ses opinions, mais il ne sait pas de quoi il parle. Parce que j'ai des amis qui sont actuellement à Sao Paulo, Brésil.
Oui.
Il manque de main d'œuvre pour enterrer les morts, donc peut-être qu'il faut qu'il aille les aider, hein.
Ah.
Donc comme ça, il comprend c'est quoi le Covid.
Ah mais le Covid, on sait que le Covid tue.
Donc il faut aller là-bas, nous on est loin de tout, il y a des gens là-bas qui souffre beaucoup. Donc c'est vraiment c'est ça. Si t'es pas touché, tu peux parler de mascarade et tout, mais quand c'est la réalité.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais après il faut comparer ce qui est comparable. On parle là-bas de plusieurs millions d'habitants.
Le président du Brésil, le président des États-Unis, ont eu le même langage au début. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité les a rattrapés. Le premier ministre des Britanniques avait ce langage au début. Il a été touché, il a failli mourir. Je pense qu'aujourd'hui, il a un autre langage. Il impose la quatorzaine. Donc, il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire.
Donc, toi, tu es d'accord ?
Par rapport à des endroits qui n'ont pas pu contenir ce virus à temps. Mmh. Et qui aujourd'hui, les États-Unis, première puissance mondiale, je pense qu'aucun pays n'est aussi armé qu'eux pour lutter contre ce virus. Nous, on a, faut pas oublier, j'ai vu un docteur de Lyon, il a dit, votre problème à vous, aujourd'hui ça va, mais le jour où votre structure de santé commence à être, je dis bien, commence à être encombrée, il faudra penser à envoyer vos malades ailleurs, mais où ? On ne sait pas, parce qu'en France, ils ont envoyé à Lyon, à Metz, à Bordeaux, tu le sais ça.
Tout à fait.
Nous, on va envoyer à Nkuriva, on envoie où ? C'est là la question.
Alors, là où je te rejoins complètement, et
c'est la structure de santé qui va nous dire quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce que, comme il dit, la mascarade va s'arrêter.
Alors, là où je suis à fond dans ton sens, c'est que j'ai pu savoir par l'intermédiaire de connaissances qu'au niveau de l'Institut Malardé, beaucoup de ces personnes qui travaillent comme des fous hein, pour pouvoir tester, aller chercher tous les résultats, il y a des gens aujourd'hui qui sont fatigués, crevés, voire même proches du burn-out. Et effectivement, lorsque cette structure sera complètement épuisée...
Voilà.
Où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher voilà. et faire voilà. tester les gens
tests, on a du mal à les tester. On n'a pas l'échelle d'un pays pour lutter contre ce genre de virus. C'est ça. Donc nous, on n'a pas le droit. Je dis, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça qui est important.
Très bien. Le but de l'émission, c'est que tout le monde puisse parler. Hein. Tu es d'accord avec ça ?
Moi, j'ai des amis qui sont à Sao Paulo et qui ont des difficultés, pas de travail, d'économie, parce qu'ils sont loin de là. Ils ont le Brésil aujourd'hui a encore 1200 morts par jour. Mm-hmm. Ça, il faut le savoir. Donc, ils ont du mal vraiment à lutter contre ce virus. Donc, il faut avoir une pensée pour ces gens-là. Et ils sont loin, ils ne savent pas quand est-ce que la pandémie va s'arrêter.
Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de pouvoir communiquer sur Radio 1, de vous faire entendre.
Ouais.
Chacun son opinion.
Un peu le tableau,
et c'est très bien.
J'ai des contacts avec des gens que j'écoute, pas quotidiennement, mais normalement avec des gens qui sont.
Sur place, sont, en plein milieu, voilà, en plein milieu du feu. Très bien, merci beaucoup de ton intervention.
Merci,
au revoir. Bye, bisous magiques. Radio 1, bonjour.
Bonjour.
Oui, ton prénom, s'il te plaît.
Patrick.
Yolana Patrick, tu voulais réagir.
Oui, alors, c'était pour la personne qui venait d'intervenir.
C'est juste avant, là, qui parlait de Sao Paulo.
Qui parlait aussi de l'Italie.
Oui.
En disant qu'il y avait une quatorzaine.
Mm-hmm.
Alors, il n'y a pas de quatorzaine en Italie.
Okay.
Il y a une quatorzaine au Royaume-Uni par rapport à la France,
mm-hmm.
qui a créé un bordel.
D'ailleurs, oui, parce qu'ils veulent une réciprocité maintenant, là.
Pardon.
Ouais, parce que maintenant la France veut une réciprocité. Tu,
oui, voilà.
tu veux pas Donc, que je vienne chez toi, ben tu viens pas chez moi non plus.
Ça devient ridicule. De politique et plus de santé. Alors pour l'Italie, je saisis cette occasion pour parler de l'Italie, qui est un cas très intéressant, puisque si tout le monde se souvient que c'était quasiment le cas le plus catastrophique
d'Europe
au début de la pandémie, puisque on voyait des images assez affolantes dans les hôpitaux.
Mmh.
Et il y a des explications, hein. Tout le monde se mélangeait, il paraît qu'il y avait aussi des travailleurs dans le cuir de luxe qui circulaient entre les deux pays, entre Chine et Italie pendant des mois, ce qui faisait que... Bon, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis, donc l'Italie a redressé le cap, mm-hmm. et aujourd'hui c'est devenu quasiment un modèle en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de quatorzaine, puisque... Tous les pays d'Europe peuvent circuler entre eux sans quatorzaine. Hein.
Mm-hmm.
Et il y a des mesures, effectivement, de distanciation qui sont très, très bien respectées, avec le masque et tout. Et ça fonctionne très, très bien en Italie. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et il faut... J'ai l'impression que concernant les écoles, etc. et tout, chaque pays, y compris les tout petits pays, essaie de réinventer le fil à couper le beurre, alors qu'il suffit de regarder les pays où ça marche. Comment est-ce qu'ils font ? Donc, il y a des modèles, effectivement, on peut parler des États-Unis où ça marche pas, du Brésil où ça marche pas, et de Boris Johnson, etc. Mais il y a aussi des situations où ça marche très très bien, avec des bonnes mesures de distanciation, sans tuer le fonctionnement d'un pays au niveau social et économique. Mmh. Voilà. Parce que on en a pour un ou deux ans, peut-être. Donc, et c'est, même si peut-être par miracle on peut avoir un vaccin dans six mois, je ne le pense pas, essayons de raisonner sur un ou deux ans. Et est-ce qu'on peut fermer les écoles pendant deux ans? La réponse est non. Donc, essayons de trouver d'autres solutions.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup de ton appel.
Je t'en prie.
Bonne journée. Ciao, Patrick. 40 43 61 00, c'est toute la magie de cette émission. C'est de pouvoir avoir des opinions complètement divergentes et de pouvoir les exprimer. Donc voilà, on te laisse faire, hein. 40 43 61 00. Quelle est ta façon de voir les choses? Est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est trop? Est-ce que c'était pas prévisible qu'il y ait 1, 2, voire même 20 cas dans une école? On s'entend que aujourd'hui, on voit bien que le virus se propage. Vu qu'il y a plus de tests, eh bien, on trouve plus de cas. Mais encore une fois, est-ce qu'on doit confondre les cas avec les malades, les hospitalisations, etc. On est en train de peut-être prendre des décisions trop importantes. C'est à toi de me le dire. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que je lis sur le net. Radio 1, ça y est, tu as coupé ta radio.
Oui, oui. Disons que moi, je suis en accord avec celui qui parlait du Brésil, de Sao Paulo, tout ça. Il y en a qui comparent, comme ça s'appelle, ce qui n'est pas comparable, par exemple la grippe avec le coronavirus. Il faut regarder le nombre de morts par rapport au nombre de malades. Quand il y a une épidémie de grippe, ça se chiffre pas à 20 millions de personnes dans le monde, ça se chiffre à plusieurs, pratiquement un milliard de personnes dans le monde. Donc on peut pas comparer ces deux trucs-là. Après, il faut savoir c'est que nous, en Polynésie, les places qu'il y a à l'hôpital, c'est peu. La population, il y en a beaucoup qui sont obèses. Et donc, il risque d'y avoir, comme ça s'appelle, au niveau des hôpitaux, si l'épidémie démarre vraiment, l'hôpital sera vite saturé. Il faut voir tout ça. Après, fermer les écoles par mesure de précaution au départ, moi, je suis pour. Le masque, confinement, c'est pas bien. Mais le masque, parce que le confinement, c'est l'économie, la ruine de Tahiti au niveau économie, mais que tout le monde porte le masque.
Bien sûr.
J'ai vu hier sur une interview à côté du marché, un mec qui disait comme ça, j'en ai marre, on me prive de ma liberté. Non, il faut que les gens ils comprennent que la liberté, ce que ça veut dire, la liberté, elle s'arrête là où elle empiète sur celle des autres. Et le mec, il a beau dire, je suis pas malade, il était jeune, il n'en sait rien. On peut pas, comme ça s'appelle, si on était malade, si on savait qu'on était malade, il n'y aurait pas de problème. Là, on ne le sait pas. T'as énormément de personnes qui sont
asymptomatiques.
Voilà, asymptomatiques. Donc, par mesure de précaution, que tout le monde porte le masque.
Alors, là, le port du masque, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et puis, ceux qui disent qu'ils ne supportent pas, ils ne peuvent pas respirer, on le prend le... Bon, ça, ils ont leurs opinions. Hein. Et puis, il faut quand même mettre un petit bémol, parce qu'au niveau de la communication, tu es d'accord avec moi qu'on a quand même été très mal servi avec un gouvernement, avec un ministère de la Santé au niveau national, qui à un moment nous disait que c'était même dangereux, que c'était inutile, pas du tout, contre-productif, etc. On a eu quand même des langages qui peuvent expliquer justement que certains ne comprennent plus qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut le mettre ou pas. D'accord ?
Donc, désolé, attendez, ce niveau-là, je vais répondre à ça. Je me rappelle très bien que les scientifiques, au départ, ont dit c'est un nouveau virus, ce qu'on dit aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, ça ne sera plus le cas.
Ben on est d'accord, je suis d'accord avec toi, mais une fois que c'est dit, pour certains, ça reste dans leur mémoire. Quoi. Donc, je n'ai pas dit qu'ils ont raison, j'ai dit on peut leur accorder un petit... voilà. Okay. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il faut porter le masque. On est tous d'accord, et c'est pour ça qu'on fait des annonces en radio et en télévision. Moi, ce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu n'as pas l'impression que depuis une dizaine de jours, avec cette histoire du piment rouge, justement, à cause d'un gars, On a réussi à aller chercher tout autour de toutes les personnes qui ont rencontré, fréquenté, dit bonjour. On a réussi à trouver jusqu'à 130 cas. Il y a 2000 personnes qui auraient été concernées. Ok,
oui. Okay.
Qu'est-ce que tu penses en mois de février lorsqu'il y avait 63 cas en Polynésie? Pas un cas, pas juste un gars qui va dans un resto. 63 cas éparpillés dans toute la population. Je te rappelle quand même que ça allait de Papara, Maïna, même jusqu'à la Presqu'île. Les gens n'étaient pas isolés, ils étaient confinés dans des familles où tout le monde pouvait se voir, se rencontrer, se parler, se faire des mains Tahiti. À l'époque, on ne dépistait, on faisait pas de tests. Résultat, on est resté avec 63 cas, un seul cas autochtone, celui, le monsieur de Papara qui a été hospitalisé. Est-ce que tu penses que si à l'époque, au mois de mars, on avait dépisté, on avait testé autant qu'on teste aujourd'hui pour un cluster, comme on dit, on n'aurait pas trouvé des centaines de cas? Comment tu expliques que là, avec un cas aujourd'hui, on arrive à trouver 130 cas et qu'à l'époque, on n'en trouvait pas? Est-ce que tu n'as pas l'impression que les chiffres, le nombre qu'on nous donne, c'est par rapport à un nombre de tests trop important, quoi? Parce que si on continue, on a ces 51 gendarmes qui sont partis en France et qui ont été dépistés là-bas. Quand ils sont partis d'ici, ils ne faisaient pas partie des cas de Polynésie. On les avait jamais testés.
Oui, je sais. Ils ont été contaminés par le prof.
Ok. Alors, enfin,
quelques-uns ont été contaminés par le prof et après, ils ont contaminé toute la caserne.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces 63 cas qui étaient juste confinés dans des familles et qui rencontraient des gens et encore des gens qui rencontraient des gens qui rencontraient des gens?
Ils étaient confinés. Non, ils étaient vraiment confinés.
Mais ils étaient confinés en famille, ils étaient avec leur famille, ils n'étaient pas confinés dans une pièce tout seul, ils n'étaient pas en isolement. Les gens qui étaient en isolement, c'était les gens qui revenaient de France. C'était les résidents qui étaient bloqués en France et qui devaient faire une quatorzaine. Mais les 63 cas qui étaient malades...
Papara. Voilà, celui de Papara, on prend comme exemple celui de Papara qui était en famille.
Ouais.
Celui-là, oui. Hein. Il était en famille. Eh ben, les Tahitiens qui étaient avec lui, ils étaient très costauds, ils n'ont pas chopé, c'est tout, parce qu'ils ont été aussi testés.
Est-ce que tu es sûr que tout le monde était testé? Est-ce que tu es certain que tout le monde était testé à l'époque?
Tous ceux qui étaient dans l'entourage de celui de Papara, ils ont été testés.
Et les 63 cas, les gens qui étaient autour, est-ce qu'ils ont tous été testés?
Dans les 63 cas, c'était beaucoup de cas de personnes qui arrivaient de l'aéroport. Mm-hmm. Beaucoup, comme Maïma Sage. Et tous ceux qui avaient été en rapport avec ces personnes-là ont été testés.
Bah moi, je me dis que c'est quand même assez incroyable que 63 cas n'ont pas réussi à faire un seul cas, lorsque un seul cas est capable d'en faire 130, quoi. C'est juste, moi je lance ça comme ça, je pose la question après, hein. Encore une fois, c'est juste un fait, là. Je suis juste en train de relater un fait, je donne pas une opinion, je dis pas ceci, cela, je dis, il y a un fait. Un mec arrive à nous donner 130 cas quand 63 nous en donne zéro. Je te rappelle qu'à l'époque, on nous avait dit qu'il y avait eu zéro cas autochtone, quoi.
Oui, parce que c'était à l'époque, les gens qui revenaient de France,
ils étaient contagieux.
Ils étaient obligés de rester en quinzaine
chez eux. Ils étaient testés. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Ils n'étaient pas en isolement.
Oui, ils n'étaient pas tout seuls.
Ils étaient confinés avec leur famille.
Oui, mais la majorité de ces cas-là, c'était des popas, sauf celui de Papara, et donc ils n'ont pas beaucoup de famille quand même. Hein.
Ah, bon, écoute, c'est comme tu veux, mais le gendarme, il avait zéro famille lui aussi, hein, puis il est allé juste à un endroit et puis il a contaminé 130 personnes.
Ah non, c'est le popa qui a contaminé,
c'est
le prof qui a contaminé.
Le prof.
Ouais, c'est le prof qui a contaminé. Oui, il a été à différents endroits. Je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est un super...
Un super cluster.
Non, oui, mais la personne qui transmet à beaucoup de personnes, hein.
Oui, il y a une charge virale très très forte.
Voilà. Mm-hmm. Ce que je trouve lamentable, c'est que au Piment Rouge, ils n'ont pas respecté et tout. Dedans, tu avais aussi des docteurs, tu avais des infirmières. T'as 10 cas dans les 130 cas. Samedi, tu avais 10 cas du personnel soignant de l'hôpital Taodé.
Ouais. Mais tu sais, t'as des oncologues qui font une opération de poumon en train de mourir, hein, quelqu'un qui meurt du cancer des poumons et qui sort de l'opération en fumant une cigarette. Hein, donc je vais te dire ça. Là...
Ouais, moi, je fume aussi beaucoup.
L'humain, c'est l'humain. Hein, je vais te dire. Hein.
Oui. Comme ça s'appelle. Moi, ce que je regarde dans mon entourage, je suis plus dans le milieu polynésien, c'est que le polynésien, il respecte quand même beaucoup plus.
En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même très, très fort, parce qu'on est passé à travers, depuis le début de l'épidémie, on était pas mal passé à travers. Et encore une fois, on a deux personnes qui sont hospitalisées parce qu'elles ont une pathologie à risque. Elles ne sont pas malades. Donc, est-ce qu'on peut essayer aussi d'aller chercher ce côté positif, ce côté, voilà, on est, moi je pose la question, je te pose la question, le fait de nous sortir des chiffres comme ça et de parler de cas, alors qu'au niveau des malades, ben pour l'instant on est quand même bien, est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus rassurant envers la population plutôt que d'aller dans un côté alarmiste, tu vois, c'est la question
c'est
que je pose.
C'est pas non plus un côté. Moi j'entends beaucoup de Français sur internet comme ça qui crie au complot que c'est l'ordre mondial, ils font exprès le coronavirus pour que les prennent le pouvoir au niveau du monde. Mais il faut arrêter les conneries. Comme j'appelle, j'ai entendu dire comme ça que Macron c'est un assassin, il voulait la mort du peuple. Est-ce que vous connaissez beaucoup de présidents de la République ou de chefs d'État qui veulent la mort de ceux qui payent les impôts? Franchement.
Ah bah, chacun son... après ils ont leurs opinions, t'as la tienne. Je veux dire, un chef d'État, ça envoie des jeunes de 20 ans à la guerre, hein. C'est pas pour aller faire une balade au soleil.
Oui, je sais, mais ils veulent quand même pas la mort du peuple.
Chacun son opinion, puis je comprends ce que tu veux dire. Mais je peux pas non plus aller dire que les autres disent des conneries, sinon je vais perdre des gens qui nous écoutent. Mais encore une fois, moi je parle pas de complotisme ou quoi, je parle juste d'effets positifs, d'effets un petit peu plus optimistes, quoi. Pour Tahiti, est-ce qu'on n'est pas en train d'alarmer là où on pourrait juste dire, attends, écoute, on va faire attention, on va tous mettre un masque, on va respecter les distanciations, puis on continue à faire vivre l'économie et on continue à faire vivre l'éducation.
C'est ça qu'il faut. Il faut continuer à faire vivre l'économie, mais imposer le masque.
Imposer le masque, très bien.
Voilà. Pour faire comme dans les pays asiatiques où on voit, c'est eux, on regarde, c'est eux que l'épidémie se propage le moins parce que eux mettent le masque.
Et puis ils ont l'habitude de le faire bien avant le coronavirus.
Voilà. Et nous, dans les pays occidentaux, on n'a pas l'habitude. C'est là où on a eu le plus de morts.
Merci
alors,
beaucoup.
Si on copie sur les asiatiques, je pense que comment ça s'en sortir.
Merci beaucoup pour ton intervention.
Ok. Au revoir.
Ciao. Gros bisous magiques. Bonjour Ali. Alors, quelle est ton opinion sur tout ce qu'on dit depuis ce matin-là?
Alors, je pense que les écoles, il faut qu'elles restent ouvertes.
Aha.
Après, le grand souci, qui suis aussi parent d'élèves, c'est que comment ça se fait qu'il y a des cas qui ont été trouvés pendant l'école, pendant la rentrée, et qu'ils étaient dans les classes?
C'est-à-dire, je comprends pas bien le sens de ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ce que je veux dire, c'est que dans toutes les communications qu'on voit des écoles qui ferment, ils disent qu'il y a des cas dans telle ou telle établissement, dans telle classe. Et je pose la question, comment ça se fait qu'on sait que ces classes ont été contaminées? Pourquoi ces personnes qui attendent leurs résultats n'étaient pas tranquillement chez eux?
Ah, ok, je comprends. Comment se fait-il que ces enfants, on apprend qu'ils sont porteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'école, quoi? Est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient en attente de leurs résultats? C'est ça que tu voulais dire?
C'est ça.
C'est vrai que c'est aberrant, là.
Donc moi, en tant que parent d'élève, je m'inquiète pour mes enfants. Et j'aimerais avoir des réponses à mes questions.
Je comprends. Mais par contre, tu es quand même pour le fait qu'on laisse les écoles ouvertes?
Oui, il faut que nos enfants s'éduquent et aillent apprendre des nouvelles choses.
Apprendre la vie sociale.
Voilà. Mais moi, je pense, en tant que parent d'élèves, je vais sûrement aller porter plainte à la police, aux gendarmeries, pour qu'il y ait une enquête, pour trouver les vraies raisons, les réponses à nos questions.
D'accord. Toi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui nous est caché?
Qui nous est caché, pas forcément, mais qu'il y a des personnes qui sont pas responsables. Et qui disent... J'emmène mon enfant à l'école et puis voilà, et on verra bien le reste.
D'accord. Et ça, comme tu le dis, c'est complètement irresponsable et ça pourrait même être à l'origine d'une catastrophe, voire le pire. Enfin, alors que tu l'as fait tester au chorus sans attendre la réponse et tu l'envoies quand même à l'école au milieu d'autres élèves.
C'est ça.
Très bien. Merci beaucoup de ton intervention. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, parents d'élèves? Effectivement, la question est pertinente. Comment se fait-il qu'on a découvert que certains enfants avaient le virus alors qu'ils étaient déjà à l'école? Ça veut dire qu'on les avait testés? On sait qu'il faut à peu près 2-3 jours pour avoir la réponse. Est-ce qu'ils étaient déjà ils avaient déjà un doute? Mais alors, si tu as un doute, pourquoi t'emmènes ton enfant à l'école? Voilà un sujet pertinent également que vient de nous poser notre cher Harry, notre auditeur. 40 43 61 00. Vous l'avez entendu, plusieurs visions des choses, plusieurs... Alors après, on parle, tout à l'heure, on parlait de complot. Hein. Il y a ceux qui sont pour la théorie du complot, que tout ça, c'est préparé, c'est monté par et les Bill Gates, et l'OMS, et les gouvernements, etc. Ça aussi, c'est une théorie. Ce qui est assez drôle, quand même, avec tout ça, c'est que quand on est dans la théorie du complot, les autres sont des imbéciles. Et quand on est contre la théorie du complot, ceux qui sont pour la théorie du complot sont tous des imbéciles. Mais alors, on est tous des imbéciles ou on a tous, à un moment donné, le droit de penser? Est-ce qu'on a juste le droit de penser? Est-ce qu'on a le droit d'avoir sa propre idée des choses? D'accord? Après, il y a des logiques. Alors, tu peux les développer, tu peux en parler, comme vous l'avez vu hein, depuis tout à l'heure. On a vraiment tout entendu. Et s'en opposer. Donc vous pouvez bien sûr vous exprimer. Radio à la première FM de Tahiti, béni soit-il. Et on continue aujourd'hui avec vos réactions 40 43 61 00. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité du moment avec la fermeture de tous ces lycées et collèges? Dites-nous ce que vous en pensez. Et nous avons Jean-Paul au téléphone. Bonjour Jean-Paul.
Salut Béni.
Alors, toi, tu vois ça comment, toi?
Moi, je vois le restant de la première vague.
Ah.
Ce sont les gens qui n'ont pas été se faire contrôler, qui l'avaient déjà.
Ouais.
Et qu'ils l'ont dispatché. Pour arriver à une vitesse aussi grande que ça, ça veut dire qu'il y avait des éléments, des agents dormeurs qui l'ont balancé au fur et à mesure, parce qu'eux-mêmes ne devaient pas se douter qu'ils étaient touchés. Ouais. Résultat, on est monté à une grande vitesse.
Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens dans la nature comme ça qui l'ont et puis qu'on n'a pas dépisté, ouais?
Ah oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire? On a un système de santé, il est efficace jusqu'à un certain niveau. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Quand il y a 2000 poules qui se taillent dans un grand poulailler alors qu'il y en a une partie qui est contaminée, ben, tu es sûr que ça va contaminer les autres.
À un moment donné, c'est clair.
Et chez le voisin aussi.
Tout à fait.
Et qu'il y a un gars qui habite ici, ils ne sont pas pétés, qui va à Tarawao, de Tarawao, il va à Wainé. Et sans le savoir, ben, il est graine. Comment tu veux faire quand tu as une pandémie comme ça, que tu es surpris par une pandémie, avoir la réaction déjà tout de suite?
Et est-ce que toi, ça te fait peur, le nombre de cas qui augmente?
Non.
Tu t'y attendais?
Je m'y attendais non seulement, mais en plus, il est en train de perdre de sa puissance, donc... à la rigueur, tu peux avoir comme une dengue, mal partout, des courbatures, des trucs comme ça, et puis après ça va passer. Ouais, il a perdu de sa fougue.
Merci de ton intervention, mon Jean-Paul.
Heureusement.
Ben oui, heureusement. Merci beaucoup, mon Jean-Paul. Bonne journée à toi.
Okay,
bye bye, bisous magiques. Ciao. Radio, un bonjour.
Hey, salut Béni.
Oui, comment vas-tu, Marionon?
Ça va.
Je te reconnais tout de suite. Hey,
pauvre de toi, hein, parce que tu m'as sacré ce matin. Hein.
Ah, j'en prends plein la gueule à chaque fois.
Comme tu as les épaules larges aussi. On demande à la population de ne pas trop massacrer. Non, mais mes opinions.
Ouais.
On s'y attendait à tout ça. Hein.
Bien sûr.
Et les écoles sont fermées aujourd'hui, c'est pas grave. Il y en a qui sont fermés, il y en a qui sont ouverts. Peut-être demain, ceux qui sont ouverts resteront fermés. Et ceux qui sont fermés vont réouvrir. Et ça devait y arriver, tout ça. Il ne faut pas jeter la pierre sur les autres.
Ni sur la ministre, ni sur les profs.
Ce qu'il faut se dire, c'est protéger. Il faut se protéger. Mais ce que, si j'entends bien avec toutes les réactions, ça manque de masques. C'est pas possible. C'est ce que je vais faire appel à tous les maires, les maires de toutes les communes. Vous avez fait des masques. Vous avez pris de votre temps pour prendre avec le CAES qui a été embauché. Mmh. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais ils ont fait des masques. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut me dire que ça manque des masques.
Non,
parce
c'est
que
vrai.
Ça a été fait pour les écoles. Mmh. Maintenant, il faut savoir où sont ces masques-là. Est-ce qu'ils sont vraiment pour les écoles ? Où sont c'est pour faire le drap à la maison. Bon. Je vise personne. Personne ne peut me dire que ça manque de masques.
Mais non, comme on le sait, il y a eu des milliers de masques qui ont été confectionnés dans toutes les communes. Et c'est vrai, quand on entend qu'aujourd'hui, les gens ils vont acheter des masques qui coûtent cher, d'ailleurs.
Ben oui.
Alors qu'on on nous a dit que les masques en tissu sont tout à fait sont valables, quoi.
Tout à fait. Mmh. C'est pour ça que je fais appel. Hein, appel. On fait appel à tous les maires. Tous les représentants, où sont les masques qui ont été confectionnés.
Et à la limite,
les
maîtres, peut-être aller dans les grandes surfaces, aller mettre des personnes qui sont là avec le stock de masques pour pouvoir inviter la population à aller chercher, et on donne tant de masques par personne, peut-être 2 masques ou 4 masques par personne pour qu'ils puissent les utiliser.
Oui, je pense que il y a des communes qui ont fait leur travail hein, de distribuer. Et voilà c'est ça notre mentalité aujourd'hui. On me donne 2 masques, mais comme on m'a donné, je prends pas soin. Je prends pas soin de mon masque qu'on m'a donné. Si c'est sale, bon, je le jette. Peut-être on va me redonner encore. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Pour changer cette mentalité, il faut prendre soin de son masque.
C'est pas parce qu'on te le donne gratuitement qu'il n'a pas de valeur. Il peut sauver une vie, tout à fait.
Oui, tout ça, il y a de la valeur parce qu'il y a une personne qui a coupé, il y a une personne qui a coupé. Tout ça, on a payé avec de l'argent.
Yes.
Mais ça, il faut faire comprendre à tous les gens. Ce sont des trucs qu'on nous donne, mais il faut prendre soin.
Parfait. Marulu, voilà. Mariano.
J'ai remarqué aussi, je fais appel aussi à tous les ceux qui font des excursions à Montréal. Hein. Quand on dit mais à se protéger, je ne vais pas aussi espionner, mais je les vois passer devant chez moi avec les gros bateaux, mais il y a plein de touristes. C'est bien, mais il y a pas de distanciation. Y en a qui se collent à côté, ben peut-être c'est pour aller à la mer, ça donne un peu de frisson, hein, pour aller à la mer, à côté les raies. Mais où est les mesures barrières de l'eau? Il n'y a pas de masque. C'est ça. J'ai vu un peu avec la population de Montréal, ils sont un peu fâchés. Je leur ai dit non. Il ne faut pas se passer comme ça. Il faut faire appel. Il faut aller voir le maire. C'est pas comme ça qu'on peut avancer. Il faut discuter. Pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'il peut apporter et qu'est-ce qu'il peut apporter pour changer tout ça. C'est ça. Mais les gens qui ont dit leur opinion ce matin, mais je les félicite. C'est, heureusement, on dit quelque chose et là, ça fait
réagir.
Ça fait réagir.
Réfléchir.
Non, voilà. Et maintenant, il ne faut pas oublier, on garde les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est à porter les masques, que tu sois malade ou pas. Porte un masque. Là, tu as une discussion, tu portes un masque. C'est tout. Il n'y a pas. Mais je félicite aussi le béni qui reçoit tout le monde. Hein. Voilà.
Tavana béni, ben, Tavana béni. Ça va devenir Taravana bientôt.
Il faut laisser aussi la ministre faire son travail. J'ai entendu tes points de nuit ce matin. Alors, mais je pense que Christelle, elle a aussi une tête, hein, tête pensante avec tous les directeurs et directrices. Peut-être elle n'a pas le temps de discuter. Il représente les assos, la fédération, mais on laisse la part des choses au ministre avec les directeurs et directrices d'école à trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions, pas pour casser les autres.
Merci beaucoup, Mariano. Passe une belle journée, Marulu Magique.
Merci, Marie.
Allez, 40 43 61 00, vous avez encore le temps de réagir aujourd'hui sur Radio 1, on est ensemble.
Sur la première FM de Tahiti, tous les matins à 10h45, béni soit l'humour.
Béni soit l'humour, on va tous rigoler. avec Béni sur l'humour. Vous allez tous rigoler, vous le savez, hein, mon émission et Radio 1 est contre toute discrimination. Et régulièrement, on fait comme ça des sujets, y compris avec de l'humour, pour montrer qu'on est contre la discrimination. Et là, on va parler de l'homophobie. Eh oui, avec un cliché sur les gays vu par un humoriste français, Alex Ramirez, qui est lui-même homosexuel. Et vous allez voir, hein, lorsque c'est dit par un gay, hein, les clichés gays, eh bien ça prend une toute autre mesure.
Bonsoir à tous, je m'appelle donc Alex Ramirez, avec un S à la fin de Ramirez. Non, c'est très important, j'insiste, parce que si vous me cherchez sur internet et que vous mettez un Z, vous allez tomber sur un surfeur mexicain hyper baraque. Voilà, je précise parce que souvent entre les deux, il y en a toujours qui, qui le préfèrent. J'ai 28 ans, je suis français, gaucher, homo, j'ai la barbe rousse. Et ouais, ça peut surprendre, pardon, ça peut même en choquer encore certains, mais voilà, on est en 2017, moi je l'assume totalement. Je le dis en public, j'ai aucun souci avec ça. J'ai la barbe rousse. Alors attention, c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais c'est juste que j'ai rien à raconter là-dessus. Ah, c'est affligeant, je suis hyper banal. Mais je suis même un peu déçu. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il allait voir un truc en plus. Alors oui. Si, clairement, il y a un truc en plus. Là, je veux dire, au niveau de... Ne serait-ce que pour mon entourage, moi, je pensais que l'annonce allait provoquer des réactions hyper fortes. Tu parles. Quand je l'ai dit à mes potes, tout ce que j'ai eu, c'est « Alex, t'es comédien. Donc oui. » Et pareil avec ma famille. Hein, la réaction de ma mère, je vais la faire. Ok, tu mets ton bol dans l'évier? Quoi, maman, c'est tout? Bah oui, les couverts sont déjà mis. Mon père, elle a dit quoi, ta mère? Ok, bon bah ok, d'accord. Et ma grand-mère? Oh, bah tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. Merci, mamie. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens tolérants, ouais. Mais d'un certain côté, ça m'arrange pas, parce que moi je voulais du conflit, moi je voulais du fight, moi je voulais arriver en couple dans un resto qu'on me dise « Ah non, désolé, y a pas de table pour vous, que je fasse un ouais ?» C'est parce qu'on est pédé, c'est ça ? Non, c'est parce qu'il fallait réserver. Ok. Heureusement, y a mon frère. Ouais, alors mon frère, comment vous dire ? Mon frère, tu sens que... Non, il est pas fan de tout le concept, hein. Il est comme quand tu croques dans un chocolat qu'en fait, il y a de l'alcool dedans. Du coup, je me suis rendu l'évidence et je pense tout simplement que mon frère est jaloux. Ah bah tellement, que je sois tranquille, pépère entre mecs, alors qu'il est coincé avec une femme et deux petites filles à jouer à la dinette. Oh la honte, il doit être dégoûté. Mon frère, c'est simple, ça fait 4 ans qu'il se mate la Reine des Neiges tous les matins et qu'il boit son café dans les tasses Hello Kitty. Alors, c'est qui la tarlouse? Remarquez, je dis ça, il y a peut-être plein d'autres personnes que ça dérange de me savoir avec un mec, hein, ça arrive, c'est... bah déjà toutes les filles. Si, qui sont quelque part un petit peu déçues. Putain, Ricky Martin, le mec de Prison Break maintenant, Alex Ramirez? Non! Et nous les prendrons donc tous! Oui, le mec de Prison Break, si vous saviez pas. Il est dans notre équipe. Enfin, je dis ça, il y a certaines filles, tu leur dis que t'es avec un mec, elles sont comme des dingues. Ah, j'adore! Trop mignon de quoi? On n'est pas des chatons, putain! Du coup, je peux me déshabiller devant toi, ça dérange pas. Non, c'est ce que tu viens de dire qui est dérangeant. Surtout quand on est dans la rue. Après, t'as vu, je dis avec un mec, je dis pas gay. J'ai rien contre le mot, hein, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, si tu dis à quelqu'un que tu es gay, il va forcément t'imaginer avec tout le pack de clichés qui va avec. C'est comme une espèce de gay box. Dans le sens où si t'es gay, t'es forcément une espèce de créature efféminée, très exubérante, qui travaille dans la mode. Ou les cheveux, on a le choix. Qui bouge les mains, qui roule les yeux, qui tord du cul et qui critique tout le monde avec une voix nasillarde en buvant des cosmos. Si tu es gay, tu es forcément un peu nympho. Ça aussi, c'est hyper logique en fait. Si tu aimes les hommes, tu es attiré par tous les hommes du monde. À moi, les gars, là, je me retiens de vous sauter dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai pris mes médicaments. Et bien sûr, si tu es gay, forcément, dès que tu entends du Madonna, du Rihanna ou du Britney, oulala, tu ne réponds plus de rien. Tu enfiles ta combinaison dorée et tu files en boîte, assouvir ton devoir de gay. Cause you make me feel like I'm only gay in the world. Ah, ah, only gay in the world. Gay in the world. On est gay.
c'était Alex Ramirez, les clichés sur les gays vus par un gay, pour vous montrer que dans notre émission, aucune discrimination, s'il vous plaît. Respect, amour, bienveillance, ça sera également avec notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Fadi et on va discuter avec lui pour savoir comment on peut venir en aide et solidaire avec tous les sinistrés, 300 000 personnes sinistrées au Liban, à Beyrouth, après l'explosion d'il y a une dizaine de jours. Ça sera notre invité de 11h aujourd'hui sur Radio 1.
Fais le plein d'humour sur Radio 1. Béni soit-il.